Les éditions Milan, créées à Toulouse il y a 40 ans, fêtent leur anniversaire. Chaque mois, elles conçoivent 20 magazines destinés à la jeunesse. Elles proposent aussi un large catalogue de livres pour enfants. Mais pas que, nous le verrons. Retour sur la saga de l'édition toulousaine au service de l'éducation et de la culture. Nous accueillons ce matin Marianne Denis, directrice générale des éditions Milan. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors tout a commencé il y a un tout petit peu plus de 40 ans, on triche un peu, par la création de Milan Presse avec la conception de magazines pour enfants. À quel besoin exactement répondaient ces publications ?
Alors Milan a été créé avec la volonté de faire de la presse éducative et donc s'est développé en lien avec l'université et avec la recherche pour correspondre parfaitement au niveau de développement des enfants et à leur capacité cognitive. Donc l'idée, c'était l'éducation des enfants, des supports pédagogiques vraiment très ajustés à l'âge des enfants, avec une volonté de leur faire acquérir leur autonomie en douceur, en les accompagnant pendant toute leur enfance et leur adolescence.
Donc ça, c'était les commencements. Et puis, j'imagine bien que ce fil rouge continue encore aujourd'hui. Nous allons en parler. Au commencement, donc là, ces publications. Et puis, en 1982, les éditions Milan qui ont été créées. Et donc, avec des premiers ouvrages, des premiers succès. Quelles thématiques ont été les premières?
Alors, il y a une collection qui a connu beaucoup de succès, qui existe encore, qui s'appelle Copains. Et notamment, le best-seller, c'était Copains des bois.
Ah oui,
donc,
je m'en
pour
souviens.
Accompagner les enfants dans la nature. Et puis, aujourd'hui, la première collection phare des éditions Milan, c'est Mes petits docs, qui est la première collection documentaire vendue en librairie et qui reflète bien ce qu'est Milan au niveau de l'édition, cette volonté de faire découvrir le monde, de faire observer plein de choses aux enfants via cette veine documentaire.
Et cet ouvrage Copains des bois dont je suis sûre que nos auditeurs ont déjà vu ou lu, en fait on peut se dire que les éditions Milan étaient un petit peu précurseurs dans l'écologie, parce que dans les années 90 c'était quand même pas un grand sujet de préoccupation. Et comment vous avez pu faire ce travail et comment vous suivez ce travail sur cette thématique notamment de l'écologie?
Alors c'est vrai que l'écologie c'est un gros sujet chez Milan, qu'on essaie d'aborder, en fait, plutôt par faire s'émerveiller l'enfant sur la nature. On n'a pas du tout envie d'être très pédago sur le mode « voici les éco-gestes à accomplir » parce que les enfants, aujourd'hui, ils ont développé ce qu'on appelle l'éco-anxiété et ce n'est pas forcément une bonne chose que de sans arrêt leur dire qu'ils sont responsables de l'état du monde, ce qui n'est pas vrai en plus. Donc on ne veut pas faire peser chez eux une charge très lourde. Par contre, on les fait venir à l'écologie en les emmenant dans la nature via nos magazines. Et notre magazine le plus connu, c'est Wapiti, qui a 60 000 abonnés aujourd'hui et qui fait découvrir aux enfants la nature et les animaux. Et quel enfant n'est pas sensible aux animaux? Donc la passion des animaux, c'est ce qu'il y a de plus partagé chez les enfants. Et on les fait venir à la nature en leur présentant ces animaux, en leur faisant découvrir toutes leurs capacités. Et le lien avec Wapiti, il est génial. Quand un enfant vous parle de Wapiti, il a les yeux qui brillent.
C'est vrai.
Oui.
Ouais. Donc vous développez quand même cette capacité d'émerveillement et d'observation en fait chez les enfants.
Exactement.
Alors au long de ces 40 années, l'entreprise s'est agrandie. Elle emploie aujourd'hui 380 salariés, dont 270 sur son siège de Toulouse. À l'heure où la plupart des éditeurs sont à Paris quand même, hein, il ne faut pas se le cacher, quels avantages apporte le choix de rester en région toulousaine ?
Eh bien, je pense que ça donne un regard un tout petit peu décalé, qui est assez précieux, parce que la majorité de la population française n'habite pas à Paris. Et donc, c'est bien aussi d'avoir un regard qui n'est pas un regard parisien, parce que les enfants parisiens ne vivent pas forcément de la même façon que des enfants qui vivent à la campagne ou même à Toulouse. Donc, je trouve ça bien d'être un éditeur régional. Ça permet d'avoir un autre regard. Et puis aussi, le fait d'être à Toulouse, ça nous donne une très bonne visibilité auprès de la région, auprès de la mairie. Donc on arrive aussi à exister en tant qu'acteur culturel beaucoup plus que si on était à Paris.
Oui, il y a moins de concurrence, c'est vrai. Alors que le souhait des fondateurs était de créer des magazines qui s'adressent à tous les enfants, quelle que soit leur religion, hein, puisque j'ai cette citation de Patrice Amène qui était le fondateur et qui disait « À l'époque, les magazines pour enfants disponibles étaient très catholiques, il y avait même des pages de catéchisme dedans. Je rêvais donc pour ma fille de 3 ans d'une presse laïque et éducative. » Et pourtant, le groupe, les éditions Milan ont été rachetées par le groupe Bayard auquel appartient le quotidien La Croix, on le connaît bien, et quelles sont les valeurs que vous partagez?
Alors, ce qu'il faut voir dans le discours de Patrice Hamen de l'époque, c'est que c'était effectivement Bayard contre Milan et Milan contre Bayard. Donc il y avait une concurrence frontale entre les deux éditeurs. Aujourd'hui, tout ça est résolu, heureusement, puisque effectivement Bayard a racheté Milan en 2004. Et au départ, ça a été très mal vécu par un certain nombre de salariés de Milan qui avaient vraiment chevillé au corps le fait d'exister contre Bayard. Aujourd'hui, tout ça a disparu. On a beaucoup de services transversaux. En fait, on a gardé notre indépendance éditoriale. Ça veut dire que tous les magazines Milan sont faits à Toulouse, tous les magazines Bayard sont faits à Montrouge et qu'on est complètement libre de notre politique éditoriale. Mais on a un certain nombre de services qui sont mutualisés pour des questions d'économie d'échelle, et ça va très bien. Nos valeurs communes, en fait, c'est, je le dirais comme ça, et je trouve que ça résume bien notre position, prendre l'enfant au sérieux, sans être sérieux pour autant, mais vraiment accorder du crédit à la parole de l'enfant, l'écouter, essayer de lui apporter le meilleur service avec nos magazines, et ça, ce sont des valeurs qui sont communes à Bayard et à Milan.
Et alors justement, prendre l'enfant au sérieux, comment vous faites? Vous le rencontrez? Il y a des personnes de votre équipe qui vont, par exemple, dans les écoles, dans les centres de loisirs. Comment ça se passe, cette rencontre?
On a plein de méthodes différentes. Déjà, on a quelque chose de prodigieux. C'est qu'on coproduit avec France Télévisions une série qui s'appelle « Un jour, une question ». Et on invite les enfants à nous poser leurs questions. On reçoit 700 questions par mois. Donc c'est un formidable palpeur pour comprendre ce qui préoccupe les enfants. Et en fait, on se rend compte que les enfants sont très sensibles à l'actualité, même si on veut la leur cacher ou les protéger. C'est fait en bonne part, mais malgré tout, on voit que vraiment ils sont sensibles à ça. Et notamment au moment de la guerre en Ukraine, on a eu énormément de questions d'enfants qui étaient très déboussolés, très anxieux, et auxquels il a fallu répondre sur des sujets comme « Est-ce que mon papa va partir à la guerre ?» Donc vraiment pour nous, c'est un excellent vecteur d'information sur l'état d'esprit des enfants et sur ce qui les préoccupe. Mmh. Et puis après, on fait beaucoup de groupes de discussions avec nos abonnés régulièrement, notamment quand on veut faire une nouvelle formule, on les interroge sur le lien au magazine. On le fait auprès des enfants, on le fait aussi auprès des parents, ce qui nous permet d'orienter nos nouvelles formules. Donc on écoute très souvent les enfants via ce canal-là. Et pour les enseignants, on a un réseau de 80 délégués commerciaux qui tournent dans toutes les écoles en France et qui nous remontent aussi les observations des enseignants sur nos magazines. Donc on a plein de points d'entrée, de sondes qui nous permettent de voir quelles sont les préoccupations des parents, des enfants et des enseignants.
Oui, vous avez effectivement plusieurs sources. Alors aujourd'hui, avec ces 20 magazines publiés chaque mois à destination des enfants et des adolescents, vous souhaitez, je cite, « stimuler la curiosité, donner le goût de la lecture et encourager l'autonomie ». Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, toute réponse à une question peut s'obtenir en un clic sur Internet. Comment une revue peut nourrir la curiosité de ses lecteurs? Quelle est votre recette?
Votre question est vaste. Eh bien, en fait, on essaie de multiplier les entrées dans nos magazines. C'est-à-dire qu'on va jouer sur des rubriques différentes, des modes de lecture différents. Donc, par exemple, alterner la BD, les histoires, les documentaires, alterner les styles graphiques, alterner les styles d'écriture, ce qui va capter l'attention de l'enfant. C'est ce qu'on appelle différentes entrées dans le magazine. Donc ça va donner une multiplicité de modes de traitement d'une information. Et du coup, l'enfant va accrocher à certaines rubriques, moins à d'autres. Mais on pourra nourrir ainsi sa curiosité et l'emmener éventuellement vers des sujets dont il n'a pas l'habitude ou qu'il ne pensait pas trouver intéressant. Et donc ouvrir le champ des possibles avec lui.
Mmh. Donc cette curiosité, elle se fait par la multiplicité, par la variété aussi du graphisme et des sujets. Alors une enquête réalisée en 2019, malheureusement, je n'ai pas trouvé plus récent. Enquête réalisée par l'Institut de sondage Harris Interactive qui a indiqué que 84% des enfants de 7 à 11 ans disaient prendre plaisir à lire, mais autant de plaisir à regarder, à jouer aux jeux vidéo et voire même 89% qui aimaient bien regarder la télévision. On voit bien qu'il y a ce souci de l'enfant, de l'adolescent, de le familiariser à la lecture et de lui donner ce goût de la lecture. Vous avez quand même 6 millions de lecteurs. Comment vous faites pour donner aux enfants le goût de la lecture alors que parfois il y a plus facile à faire, il y a moins fatigant?
C'est vrai, la lecture, c'est une exigence en fait. Oui. Hein. C'est pas forcément aussi simple d'y rentrer que de rester passif devant un écran à regarder un dessin animé, on est bien d'accord. Mais en fait, déjà, on peut travailler sur des entrées dans la lecture avec des grandes photos qui vont inciter l'enfant à aller plus loin, ou lui faire faire des choses, lui faire manipuler les magazines avec des autocollants, par exemple. Donc tout ça, c'est en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr. Et c'est bien de ne pas emmener l'enfant sur des récits arides. Tout le savoir-faire de nos équipes éditoriales, c'est d'inciter l'enfant à lire, de le séduire pour l'emmener vers des choses plus complexes, mais en le faisant aborder la lecture avec des moyens plus simples comme le coloriage, la manipulation d'autocollants ou des petits récits plus courts qui vont l'inciter à rentrer plus dans la lecture. Mmh. Et puis après, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les écrans avec la lecture. Il faut essayer de faire vivre tout ça. Parce qu'en fait, les usages des enfants d'aujourd'hui et encore plus des adolescents, c'est bien d'avoir tout dans leur vie. Donc, les écrans et la lecture. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est que ce soit les enseignants ou les parents, ils sont attachés au fait de mettre entre les mains des enfants des livres ou des magazines. Donc, on doit absolument continuer à travailler ça. Et en même temps, il faut aussi répondre à un besoin d'écran intelligent. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Développer de l'écran intelligent et pas de l'écran passif.
Alors, à propos de cet écran intelligent, la pandémie a permis pour les éditions Milan de réaliser un bond de 34% de la vente d'abonnements, mais aussi de développer justement toute cette présence sur les réseaux sociaux, enfin pas tellement les réseaux sociaux, mais sur la toile avec le développement des podcasts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette nouveauté?
Alors, pendant la pandémie, on n'a eu qu'une peur au début, c'est qu'on ne puisse plus ni imprimer ni diffuser nos magazines. Au départ, on avait vraiment cette crainte que tout s'arrête. Finalement, on a eu beaucoup de chance. On a pu continuer à distribuer nos magazines. Ça a été très précieux parce que les enfants nous attendaient. On a eu beaucoup de témoignages très émouvants de parents et d'enfants qui nous disaient « Ah, c'est super, j'ai mon magazine dans ma boîte aux lettres, heureusement !» Et les parents nous disaient que ça continuait à faire un lien avec le monde extérieur, qui était très important à ce moment-là, évidemment. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de rendre Milan plus visible au-delà des magazines, en incitant les parents à aller télécharger des numéros gratuits, par exemple, pour pouvoir les regarder avec les enfants, en mettant à disposition des jeux, des informations. Et effectivement, on a créé aussi des podcasts qui s'appelaient « Allô, un jour, une actu », qui permettaient de répondre à des questions d'enfants sur l'actualité via ces fameux podcasts. Et puis depuis, on s'est rendu compte que tout ce lien qu'on avait commencé à créer hors print, hors magazine imprimé, on pouvait continuer à le développer. Donc aujourd'hui, on a créé d'autres podcasts et on a créé aussi des émissions, des webinaires qu'on propose aux enseignants une fois par mois avec leur classe. Et on leur propose des thématiques sur le racisme, le handicap, l'usage d'Internet à bon escient. Et on arrive à connecter 1000 classes de CM2 en même temps. Donc ça veut dire qu'on a 30 000 enfants qui bénéficient de ces émissions. Donc en fait, la pandémie a accéléré ces usages et on a évidemment pris parti d'accompagner les enseignants, les enfants, les parents avec des usages nouveaux qui nous permettent de renforcer nos messages éducatifs.
Et c'est cette ligne que vous voulez conserver pour les années à venir ?
Alors, on veut tout conserver. On veut conserver la diffusion de nos magazines au top, parce que la pandémie a accéléré aussi le besoin des parents d'abonner les enfants pour leur faire lire pendant cette période où c'était compliqué avec l'école. L'école à distance faisait peur aux parents, donc ils ressentaient le besoin de faire continuer les enfants à lire. Donc, on a eu beaucoup d'abonnements à cette période. Donc, on veut continuer les magazines et, bien sûr, accélérer aussi sur ces nouveaux usages qui sont très importants.
Voilà, mais longue vie aux éditions Milan et puis bon anniversaire à toute l'équipe. Merci beaucoup, Marianne Denis, de votre présence ce matin.
Merci à vous.